When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez?
Je vais bien et toi-même?
Ça va très bien parce que la semaine dernière, samedi soir, UFC Londres, enfin mes prières ont été entendues. Thomas Spinal, qui était jusque-là brillant dans la cage mais soporifique en dehors, on a eu le nouveau Tom Aspinall. Déjà, on va commencer par le sportif Fernand. Toi, sa performance. Est-ce que là, tu te dis ouïouïouï, ça frappe salement là.
Je me le disais déjà. Effectivement, il confirme parce qu'il revient d'une blessure. Il ne faut pas trop s'exciter quand il y a des... Non. Ce que je veux dire, c'est que moi, je te dis, je suis un fan des premières heures de Thomas Spinal parce qu'il est costaud, il frappe fort, il frappe machin. Mais l'OMMA, c'est une affaire de circonstances aussi et de casualités et de hasard aussi et de chance aussi. C'est que c'est pas toujours si simple que ça. C'est pas facile de tirer les conclusions sur une performance ou une contre-performance de très courte durée. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu deux alertes sur le visage de Thomas Spinal. Il y a eu son coup de coude qui frappe, qui tombe bien, mais qui n'est pas forcément tombé au bon endroit, mais qui fait mal. Et qui déséquilibre même Thomas Spinal. Il n'est pas stable au moment où il frappe son coup après ça. Et derrière, il enchaîne, et puis c'est très précis, c'est très sec, c'est très fort. Et ça passe en grande bonne, et boum, boum, voilà. Comme il dit lui-même, les poids lourds, il suffit que ça tape une fois bien, et ça se passe mal. Maintenant, moi, depuis le début, je le crains. C'est que pour parler français, ouais, je le crains, comme je crains un certain nombre de... Le dernier quatuor qui y a là, les quatre derniers soldats sont chauds. Quand tu as enlevé Stipe, quand tu as enlevé John Jones, dans quelques mois, dans quelques... ou même années, si tu veux, je ne sais pas si son ego va le faire rester Jones, il reste Pavlovic. Il reste Gilton Améla, il reste Thomas Spinal, il reste Cyril Gane, il reste éventuellement Curtis Blaydes. Tous ces mecs sont effrayants. Tu peux dire ce que tu veux. Blaydes, quand il est en état de grâce, il t'amène au sol et puis il te pilonne pendant 30 secondes. D'habitude, t'es obligé de sauter dessus parce que c'est violent. Almeida, quand il te saute dessus... c'est un truc interdit au moins de 18 ans, comment il va sur les soumissions, tu vois, enfin, c'est brutal, tu vois, et quand il y a Pavlovic qui avance vers toi, modo argenté, et qui se met à lâcher ses bombes, il a beau être lent, mais il frappe très fort, c'est effrayant, donc tous ces mecs-là donnent la chair de poule, et Aspinall a fait une démonstration de force incroyable. Maintenant, si tu vas trop à l'intérieur, on pourrait te dire, bon, arrête de vouloir réduire ce qu'il a fait. Non, mais sans vouloir réduire ce qu'il a fait, c'était une très belle performance qui attire l'attention, qui fait que, quoi qu'on en dise, il est au moins aussi rapide que Cyril Gane, au moins aussi technique debout que Cyril Gane. Il a su démontrer jusqu'aujourd'hui qu'au sol, il pouvait faire des choses, même si personnellement, je trouve que quand tu regardes le background de deux, ces gars-là aussi démontré qu'ils savaient, ils savaient soumettre, ils savaient faire des choses au sol. On a vu des soumissions de sa part. Thomas Spinal quelques-unes, surtout Monty Graham Pound. Et puis, il a l'air de cogner plus fort. Il a l'air de taper fort, Thomas Spinal. En tout cas, son palmarès le dit, quoi. Enfin, il a un certain nombre de victoires par KO rapide, c'est impressionnant. Et il a l'air de taper fort. Donc, oui, c'est impressionnant. Je dis juste que c'est compliqué toujours quand on a des performances très rapides et qu'on ne voit pas les gens en eau profonde et qu'on ne les voit pas dans des galères, dans des souffrances et tout. Ce serait bien de voir Thomas Spinal au quatrième round, au cinquième round, de voir ce qu'il donne. Tu vois, ce serait bien un jour.
Parce que oui, ça se termine toujours extrêmement rapidement avec Thomas Spinal. Néanmoins, à la différence de Sergei Pavlovitch, où là, c'est vrai que c'est surtout son anglais qui parle, là, on a cette impression qu'on a un combattant un peu plus complet. Toi, comment t'approcherais Thomas Spinal? Si jamais les chemins étaient
Est-ce qu'il
amenés
te
à se
fait croire
croiser.
que Thomas Spinal est plus complet?
Ce qui me fait croire qu'il est plus complet, c'est par exemple des combats contre Andrei Arlovski, où quand on voit que debout ça commence à coincer, enfin pas coincé non, il se fait un petit peu déborder debout par Andrei Arlovski, il a cette intelligence de changer de niveau et d'à chaque fois, tu vois, même contre Volkov, il perd pas de temps, il surprend peut-être même Volkov pour justement expédier ça très rapidement.
Ok, ce que je dis, c'est que ce changement de niveau, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la catégorie qui le font?
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, il y a d'autres personnes qui le font, mais peut-être pas aussi vite dans le combat, aussi tôt dans le combat, ou avec le même QI combat entre guillemets, CF Curtis Blaydes, de temps en temps, on l'a vu faire des erreurs.
Moi, ce que je vais dire, c'est que on a tendance à s'enflammer très rapidement quand il y a des choses qui sont faites et on oublie la réalité, c'est que concrètement là, jusqu'à aujourd'hui, on sait que Thomas Spinal est black belt, je suis brésilien, on sait qu'il a un bon sort, mais l'a-t-on déjà vu être testé face à un gros lutteur ou un gros grappleur? Parce que si on te pose la question, toi, ce que tu dis, c'est, si on te pose la question sur le français, toi, ce que tu dis, c'est, bon, on est d'accord qu'il n'a jamais été testé par un gros lutteur, on est d'accord que, bon, au sol, on a vu ses limites, on va. Mais en réalité, quand est-ce que tu as vu vraiment sur un combat, Thomas Spinal, te dérouler un niveau de sol où tu te dis, il a le niveau de sol de Gelton Almeida, ou il a le niveau de sol ne serait-ce que de Curtis Blaydes, ou il a le niveau de sol de John Jones. Qu'est-ce qui te fait croire ça concrètement? À part le fait qu'il n'ait jamais affronté quelqu'un qui a un bon niveau de sol et qui lui complique la vie au sol. C'est un débat ouvert, hein. Je te pose la question. Toi, qu'est-ce qui fait que tu dis Thomas Spinal est très bon au sol?
Alors, je ne me dis pas. Ah oui, voilà. Je ne pense pas qu'il a un aussi bon sol que Curtis Blaydes ou que John Jones. Mais là où je le trouve très intelligent, c'est qu'on le voit, même si les échantillons à chaque fois de combat sont assez courts, on le voit à chaque fois tenter plusieurs choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont mis le temps moyen de combat, c'est 2 minutes 26. Je crois que c'est le plus court chez les heavyweight ou quelque chose comme ça. On a quand même vu beaucoup de choses. On a vu plusieurs Thomas Spinal en tout cas, en 2 minutes 26 à chaque fois de temps de combat moyen. Et c'est juste
Comme
ça qui,
quoi,
moi, m'impressionne. C'est pour ça.
qu'est-ce qui t'a impressionné que
Bah,
quelqu'un d'autre,
c'est le
que d'autres
fait, tu vois.
personnes n'ont pas fait qui a
Non,
impressionné?
pas d'autres personnes. C'est que je veux dire, tu vois, Cyril, par exemple, oui, il y a les mises au sol, oui, il y a les. Mais on sent que. Et même sa soumission dès le début, dès ses débuts à l'UFC. Le problème, c'est qu'aussi, comme tu l'as dit, il y a la temporalité où aujourd'hui, Cyril, il y a eu ces deux combats où forcément, avant qu'il y ait ces deux défaites contre Francis et contre John Jones. Le narratif était différent. Là, pour l'instant, il n'a pas eu ça, il n'a
Donc,
pas eu ça,
tu
Thomas
vois, c'est ce
Spinal.
que j'essaie de te dire. Pourquoi j'essaie de te dire ça? J'essaie de te dire qu'au final, toi, tu ne juges pas l'athlète Thomas Spinal par rapport à la temporalité. Tu te dis simplement, là, actuellement, Tom, il est complet. Mais tu ne l'as même pas vu complet. Tu déduis qu'il est complet.
Tu
Est-ce qu'on est
prépares le
d'accord?
terrain, tu prépares le
Non,
terrain. Oui,
mais ce que j'essaie de dire, c'est que qu'est-ce que tu fais un jour? Parce que tu te rappelles qu'il y a encore quelques mois en arrière, on parlait de Cyril Gane comme étant l'un des combattants de MMA les plus complets. C'est comme ça qu'on le disait. Les médias anglais, américains, tout le monde trouvait qu'il était complet. Pourquoi? Parce que son premier combat à MMA, il avait gagné par soumission. Il avait amené des mecs qui voulaient l'amener au sol. Il avait réussi à mettre des timings à certains. Il avait mis des soumissions. Et donc, du coup, on se disait, bon, le gars en striking, il survole. En lutte, il n'est pas mal. Il contrôle les gars. Ensuite, il a pu amener des gars comme Jairzinho au sol. Pas facile à amener Jairzinho au sol. Hein. Il a un centre de gravité. Il est compliqué, machin. Pas facile à amener au sol quand il est en mode défense. Et au final, quelques mois plus tard, tu as déchanté. Nous avons déchanté. Tu as dit, bon, arrêtez. Attends, mais il se passe quoi?
Ouais.
Le bug arrive. En moins d'une minute, bim, bam, bim, bam, bim, pif. Et tout le monde est en train de dire, oh, mais c'est terrible, c'est le nouveau mec. Il est archi complet, il est très dangereux. Mais moi, je dis, pourquoi on n'est pas objectif? Pourquoi on ne se dit pas? Pourquoi on ne met pas les choses dans les temps en se disant, non, c'est pas si clair que ça. On l'a pas vu. On l'a pas vu travailler avec Deltona Médaille, voir ce qu'il donne. On ne sait pas ce que ça donne en vrai. On l'a pas vu la puissance dont on parle. On l'a pas vu l'exercer face à Pavlovich. Il a pris qui comme frappeur, Thomas Pinal? Un gros frappeur.
Vas-y. Non, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Pour l'instant, il en a pas eu. Il y avait le fameux test contre Curtis Blades qui a malheureusement été trop court pour le sol.
Bon. Tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je suis un fan de première de Thomas Pinal. Ça, je le lui ai dit à lui, à son papa. J'adore. Mais je dis juste que vous, les médias, vous avez tendance à nous porter là tout haut. Tout haut, à se nous laisser nous écrouler violemment. Quand je dis nous, je parle des teams, hein, je parle des combattants. Vous êtes capable de porter un athlète et faire des trucs, dire des choses dithyrambiques, et au bout d'un moment, le gars, il va perdre un combat parce qu'il va se manger une soumission et tout le monde va s'écrouler en disant « Oh, m'ont raconté n'importe quoi, c'est une fausse black belt, il n'est même pas ceinture noire, comment est-ce qu'il s'est mangé une soumission, comment ça ?» Et c'est ça le problème. Un jour, il va arriver, on va dire il est très complet. Quelqu'un va lui mettre 3, 4, 5 low kicks. Son genou fragile va abandonner. Et vous allez dire, oh, il n'a même pas de kick, quoi. Il est bon en boxe, mais kick, il n'est pas solide. Je dis, c'est tout ce que je dis. J'ai été impressionné par ce qu'il a fait. Mais j'ai très peu de matière pour déterminer aujourd'hui que je peux le classer comme un John Jones qui est complet. John Jones a montré sur quasiment 30 combats qu'il est complet. Moi, je te pose la question, d'où tu tiens que Thomas Pinal est complet?
Attends, mais je vais te la poser différemment alors. Voilà. Tu vois, Sergei Spivak, là, le camp que vous faites, il y a un judoka qui est présent, tu sais à quoi t'attendre. Thomas Pinal, il y a le combat là qui tombe, ça se passe bien pour Cyril, là, contre Sergei Spivak, en 2 minutes 30, c'est plié et tout. Mars prochain, tu prépares le combat. Est-ce qu'il y aura une emphase qui sera particulière là-dessus?
Absolument.
Voilà, donc quand même, tu te dis, il y a danger de ce côté-là.
Il y a toujours danger, je te jure. La caté des poids lourds, c'est ça qui me surmotive et me galvanise chez les poids lourds. C'est qu'il y a toujours danger. On t'annonce un nom. Tu vois le nom, tu te dis, bon, c'est bon, c'est déréglé, lui, s'il n'est pas mobile, c'est bon, il ne va rien faire. Quand tu démarres au camp d'entraînement, tu vois quelques KO de Lewis, tu te calmes et tu te dis, OK, ça peut très rapidement changer. Ensuite, on te met qui t'a, tu vois ça, tu dis, oh, bon, tu vois ça, c'est bon. À première vue, ce que j'ai vu, vite fait que je connais de ces combats, ça va, c'est pas une foudre de guerre. Tu commences à analyser les vidéos, tu vois que le bourre, quand il connecte, tu comprends la magie des Samoans, des Tongiens, de ces pays, des Fidji, de tout ça, quoi. Tu te dis, bon, le Pacifique, ça tape quand même. Et c'est toujours ça. Et donc, quand on m'annonce, quand Tom Aspinall fait son call, et oui, tu te fais quand même un bad trip, quoi, où tu te dis, ça peut se finir en cauchemar, en fait. Il peut arriver et il débloque un de ses combos en kick, one, two, crochet, fois, low kick dans le flou, changement de niveau, machin. Et donc, tu t'énerves tout seul et tu te mets à bosser. Tu accélères le truc et tu fais ce qu'il y a à faire. Mais je veux juste relativiser en disant, on a connu des mecs qui étaient très prometteurs, dont on parlait d'un futur très prometteur. Et puis, rapidement, on a changé d'avis dessus. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de raison que lui, ça ne puisse pas arriver, puisque même lui-même ne sait pas encore, quand on lui pose la question, à quoi tu pensais quand tu as fait ton walk-out aujourd'hui, que tu marchais pour aller dans la cage? Il dit, j'étais pétrifié. J'étais pétrifié parce que c'était un retour. La dernière fois, j'ai combattu devant les miens, je me suis... J'avais honte, ça s'est très mal passé. J'ai pris un mauvais appui, ma jambe a craqué. Bon, c'est un accident, mais ça reste quand même le capital santé qui est douteux. Le capital santé est un facteur de performance très important. Ce que je dis, c'est juste, les gars, venez, on est prudent. C'est un tueur. Venez, on est prudent.
Est-ce que, ce sera la dernière question à ce sujet, des quatre là, hors Cyril, est-ce que pour toi c'est le match-up le plus favorable?
Aspinal?
Ouais, entre Sergei Pavlovich, Curtis Blaydes et Gelton Almeida.
Si c'est le match le plus favorable pour Cyril
Pour Cyril.
ou
Ah oui,
Tom?
pour Cyril. Toi, si tu dois choisir dans les. Voilà, tu dois choisir dans les trois.
Je dirais Pablo. Ou Cyril, je pense que Pavlovich est celui qui serait le plus. Le plus unidimensionnel. En tout cas, c'est ce qu'il montre, parce qu'on peut découvrir un Pavlovich qui n'a jamais eu besoin d'amener au sol, et quand il est confronté à devoir amener au sol, il te fait des amener au sol que tu n'as jamais vu, il te soumet, il te fait des trucs, tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, jusqu'ici, sur sa carrière, c'est celui qui serait le plus facile à cerner pour la préparation. Gelton Almeida également est très unidimensionnel. Cependant, il a un point dominant qui est un point qui n'est pas le meilleur point de Cyril Gane. Et donc, oui, je dirais comme ça par élimination, je pense que celui qui serait le plus favorable match pour Cyril serait à date Pavlovich, alors que c'est probablement celui qui compte le plus fort. Mais c'est
Ouais,
pas quelque
clairement.
chose qui est gênant en général.
C'est ça. Oui, vous l'avez déjà prouvé par le passé. Fernand, on avance vite fait sur cette carte UFC Londres. Le retour, c'était le retour également de Faresiam contre Jay Herbert, pardon. Victoire par décision unanime de Faresiam. Bonne performance, bonne victoire. Voilà.
Oui, rien à dire, il a fait du bon boulot. Fares, il est à pleine lancée, il avance, il progresse, il fait du bon boulot tout doucement. Il y a un moment donné, il a manqué d'accélération, de volume, de constance, mais il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Sur les trois phases de combat, il est resté légèrement dominant, et c'est bien.
Et donc
Félicitations à Monsieur Faresiam.
on espère le voir à l'UFC Paris. Pour l'instant, honnêtement, Fernand, tu penses quoi de la carte UFC Paris? C'est bien parce qu'il y a plus de Français, mais je ne peux m'empêcher d'être un peu déçu de mon côté.
Non, je ne sais pas ce qui t'est déçu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez d'une facade. Peut-être c'est ma déformation de promoteur sportif qui fait que je la regarde avec un œil différent de celui qui est juste un observateur externe. Moi, je trouve qu'il y a des bons matchs sur cette facade. Je trouve que c'est pas mal. Je ne dis pas que ce sont les matchs les plus intéressants qu'on ait jamais eu. Je dis simplement que la FACAT n'est pas mal. BSD contre Moses, c'est un beau match. Manon Furo contre Rose Namajuna, c'est un très beau match. Sirigan contre Spivak. Au début, quand le combat a annoncé, tu te dis, bon, le numéro 7 va croiser le numéro 2. Bon, mais puis tu réfléchis et tu te dis, ça reste des poids lourds. Les poids lourds, ça tape fort. Spivak pourrait coucher n'importe quel autre poids lourd. Spivak est lourd, il sait utiliser son corps, il sait utiliser la lutte, il sait utiliser le judo. Et il sait contrôler les gens au sol. Cyril s'est fait contrôler au sol. Cyril s'est fait dominer au sol. Cyril a lutté une fois contre Francis Ngannou et il a perdu en lutte. Et ensuite, il a combattu contre John Jones et il a perdu en grappling. Donc, on peut partir sur ce raisonnement et se dire Spivak a un bon sol, décent sol, correct. Il a une bonne lutte, il fait tomber. C'est rare, ça, chez les poils, les gens qui font tomber de manière certaine avec des mouvements de judo. Il est jeune.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il est jeune, donc à partir de ce moment, bon, si tu fais partie de notre camp d'entraînement, tu sais que Cyril n'est pas si simple que la narration le dit sur son sol et sa lutte. Tu sais que Cyril, c'est un poison. Il est vraiment relou pour des mecs qui font du sol classique, des mecs qui font de la lutte normale et qui ont des bons palmarès en grappling et en lutte, te le disent en sparring avec lui. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Mais si tu n'es pas de la team, tu t'es dit, bon, il est mort. Il est mort parce que on voit bien que Sergei Spivak, il gère bien le sol, il colle les gens au sol, il se débrouille bien. Donc, ça fait un match compétitif finalement. Moi, je ne sais pas pour toi, mais Spivak-Cyril, ça fait un match compétitif.
Mais et justement, ouais, je voulais t'en parler, les codes de Paris, là, on voit que ça se resserre un petit peu entre Cyril et Sergei Spivak par rapport à l'annonce du combat. Donc c'est vrai que même du côté des bookmakers, ils commencent à se dire que ce soit un peu... Mais bon, moi j'espère qu'il va se passer exactement ce qui s'est passé comme Tom contre Tiboura, tu vois. Qu'il y a un vrai gros message qui soit envoyé en mode, bon, j'ai rien contre Spivak, et au contraire, mais tu sais, en mode, il y a un classement, on voit clairement que je suis dans le top 3 et toi tu es à ta place, voilà.
C'est possible, mais c'est aussi possible. Faut pas enlever faut vraiment pas sous-estimer Spivak. Je pense que Cyril est au-dessus. Je pense que j'espère qu'il est au-dessus, sinon c'est chaud. Je pense qu'il est un peu au-dessus quand même. Mais je dis encore que je respecte beaucoup Spivak et je respecte beaucoup la puissance des poids lourds. Je respecte, quel que soit ton niveau de sol technique, quand un mec est lourd sur toi, on l'a vu, quand Francis s'est posé sur Cyril était en dessous, il avait pas mal de Sambly, de mouvement de sol, de voilà, qui était beau à voir, qui était stylé, tu sentais qu'il voulait, mais le poids d'un mec plein, 120, 125 kilos sur toi, c'est dur. Et je pense que c'est ce qu'il ne veut pas ressentir, quoi, se retrouver en dessous de Spivak.
L'avenir nous le dira, Fernand. L'avenir nous le dira. 2 septembre prochain, Paris, Accor Arena. Autre actualité de ton côté, surprenante d'ailleurs, c'est Nassourdine Imavov qui se retrouve contre Ikram Aliskerov. Comme ça, de prime abord, bourbé.
Ok.
De Bourbier, et d'autant plus, parce que j'ai pas pu en parler avec Nassourdine, comment ça s'est passé le fait qu'il y ait ce combat d'Agestano, enfin Franco, enfin bref, tu comprends, d'Agestano-Dagestanais, est-ce que c'était dur à accepter pour Nassourdine ou pas du tout?
Dans un premier temps, c'est toujours dit non, c'est une espèce de pacte de non-agression entre les Caucasiens et surtout de la Tchétchénie ou du Daghestan, entre Daghestan versus Daghestan ou Tchétchène versus Tchétchène. Et qu'il y a eu le match entre Chimaev contre Ikram, mais c'était Daghestan versus Tchétchénie. Là, on a Daghestan-Daghestan. Donc, c'est tendu quand même. Donc, moi, quand je reçois le message, je dis au matchmaker, laisse tomber, ça ne marche pas. Ça ne va pas passer, c'est mort. C'est inutile, je vais à peine mon temps d'aller demander. C'est un pacte de non-agression qui existe depuis. Dès que je leur en parle, ça bloque. Donc, je ne veux même pas perdre le temps. Il me dit, bah, c'est dommage. Parce que Ikram, lui, l'a validé. Il a validé toutes les dates. Il a validé, il est chaud bouillant. Je dis, comment ça, toutes les dates? Il me dit, bah, Ikram, là, il est chaud à prendre Nassourdine le 14 octobre. Il est chaud à le prendre le 21 octobre. Il est chaud à le prendre à New York en novembre. Il est chaud à le prendre en décembre. Il a dit oui à toutes les dates qui arrivent pour Nassourdine. Et là, j'ai dit, wow, laisse-moi en parler à Nassourdine. Et Nassourdine dit, écoute, si lui, il est chaud, on valide le combat. Let's go. Moi, ça me fait chier. Mais si lui, il a dit qu'il est chaud, on y va. Donc voilà. Voilà à peu près comment ça s'est passé le match-up. Après, il a gagné. Hein. Il a beaucoup à gagner. Nassourdine aussi a gagné parce que ça apporte une certaine visibilité. Le combat sera à Abu Dhabi. C'est une nouvelle fanbase qui pourrait être acquise pour Nassourdine, mais ça reste un combat très très difficile. Chimaev dit que c'est le combat le plus difficile de sa carrière.
Et justement, t'en penses quoi toi alors, d'Ikram? Parce que là, il y a une hype autour de lui. Il arrive à l'UFC, premier combat, il met KO Phil Oz, ancien adversaire de Nassourdine. On sent qu'il y a une certaine attente autour de lui, et on en avait parlé la semaine dernière, que l'UFC peut-être va se dire on va mettre en place la revanche entre Chimaev et Ikram à un moment donné. Toi, t'en penses quoi de lui, et par rapport même à l'historique de Nassourdine, qui a quand même maintenant affronté un certain nombre de noms chez les middleweight, tu le placerais où?
Bah là, comme les classements sont corrects.
Non, mais je veux dire, ouais, quand je dis ça, c'est, enfin, Ikram à la base était quand même placé pour affronter Paulo Costa. Donc on sent qu'il y a cette volonté de l'UFC de vite le mettre.
C'est un peu ça aussi qui pèse dans le truc, parce que l'UFC s'est dit, attends, Paulo Costa, classé beaucoup, beaucoup mieux que Nassourdine, valide le combat, il accepte, et vous voulez tourner autour du pot, non, ça, on ne comprend pas. Donc, le combat s'est fait, le combat s'est valide, et puis on verra, mais très complet. Il a mis pas mal de KO, il est complet, il a une très bonne lutte, solide sur ses appuis, bonne mentalité, très agressif. C'est un beau test, c'est vraiment un beau test. C'est bien. C'est pas, il n'y a pas Sportivement parlant, il n'y a pas beaucoup à gagner parce que le classement, Nassourdine est devant. Mais mondialement, globalement, c'est un beau message envoyé à la catégorie de 84 kilos. Et à l'UFC, si vous avez la volonté de placer Igram contre Paulo Costa et que je bats Igram, on est d'accord que vous devez envisager de me mettre bien quelque part. Voilà un peu.
Et surtout, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est là où vous avez gagné, c'est que c'est sur la carte de Ramzat contre Paulo Costa. Donc pour les conférences de presse, si jamais Nassourdine a envie d'être un peu loquace, ça peut être sympathique. Pourquoi il n'y a pas du FC Paris par contre? Est-ce que tu étais surpris de ça?
Pourquoi il n'y a pas du FC Paris?
Pour Nassourdine.
Parce qu'il n'y avait pas d'adversaire disponible dans le top 10. À la base, c'est le top 10 qu'on veut. Et puis, on attend, on cherche, on n'a pas de top 10. Et finalement, Nassourdine et moi, on décide de ne pas combattre à Paris. Parce que c'est peut-être l'occasion de se reposer, de se soigner, de se régénérer, de faire un développement de force, de prendre le temps de passer à autre chose, au lieu de se précipiter. Parce qu'il nous restait quasiment, c'est UFC assez spécial, les combattants qui sont bouqués sur les bouquins en dernière minute, c'est incroyable. Et donc, du coup, on a Nassourdine qui dit, bon, je me donne encore une semaine, dans une semaine, on a passé le cap, je peux encore me préparer, quoi. Je veux pas prendre le risque de me préparer mal. Et donc, il me donne le no-go. Et moi, j'ai dit au matchmaker, Nassourdine ne va plus être sur Paris. Il ne veut plus être sur Paris. Il veut, à partir de maintenant, préparer le combat pour, dans 3 mois. Et c'est là où arrive la proposition en disant, écoute, Igram est libre. Lui, il est prêt à te prendre en octobre. Qu'est-ce que tu dis?
Ok. Mais ouais, non, ça va être un gros choc. Est-ce que pour Nassourdine, justement, le fait que là, enfin, pour lui, 2023, ça a quand même, il a changé de statut. Premier main event, UFC 289 ensuite, et là, la carte d'octobre. Est-ce que ça se passe de manière organique de passer de, je vais pas dire combattant parmi tant d'autres, mais tu vois, qui compte surtout aux yeux des Français, à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a changé de statut aux yeux de l'UFC, que finalement, pas l'UFC Paris était trop petit pour lui, mais qu'ils se sont dit, on va te mettre sur une des grosses cartes et annoncé par Dana White quand même.
Oui, c'est... comment te dire ? On le sait déjà, c'est indéniable. L'UFC, c'est une société qui est capitaliste. On est là pour faire des bénéfices. À partir du moment où tu passes un jeune comme Nassourdine en main event, ça veut dire que c'est un investissement que tu mets dessus pour promouvoir ce main event. Et à partir de là, il faut que tu capitalises, il faut que tu continues à le monter. Donc forcément, Nassourdine, dorénavant, il fait partie de ces athlètes qui vont combattre à l'élite. Enfin, nous, on n'en parle pas souvent des détails, des ré-signatures et tout ça, mais Nassourdine, depuis son entrée à l'UFC, il a déjà ré-signé son combat 3 fois. 3 augmentations de salaire.
Et est-ce que, quand sur les nouveaux contrats, il y a des spots aussi qui sont définis de dire, par exemple, tu vas tout le temps être en main card ou pas du tout?
Non, non, ouais. Ça n'existe pas ça. C'est vraiment au bon vouloir de l'UFC, mais tu sais quand même que c'est naturel pour eux que quand on a utilisé un mec comme Sean Strickland pour faire des main events en Fight Night, ça veut dire qu'on compte pour lui, pour le préparer, pour la ceinture à un moment donné. Quand on va annoncer Sean Strickland contre Adesanya, ça ne choque plus personne parce que le monde le connaît déjà. L'idée aujourd'hui, c'est que Nassourdine continue à être connu de façon à ce qu'on puisse le préparer pour qu'un jour il soit éligible pour une ceinture ou en tout cas éligible pour combattre sur une main card en pay-per-view à Paname.
Got it. Sur cette même carte-là, on l'a dit tout à l'heure, il y a Paulo Costa contre Ramzat. Enfin, Paulo Costa a signé son contrat. Est-ce que ça peut être celui qui nous apporte une réponse face à Ramzat?
Je suis dubitatif, c'est possible, mais ses armes, son allonge n'est pas terrible. C'est plus un bagarreur. Et bagarreur, ça va être difficile parce que Ramzat, lui, il ne s'arrête pas à faire des double legs. Paulo Costa sait contrer de double leg, mais Khamzat, quand il enchaîne double leg, il fait de la lutte en chaîne. Il attaque en frontal en double leg et tout de suite, il prend le virage, il est dans ton dos. Alors que tu es en train de mettre ton bassin en avant et ta capacité à sprawler, il est déjà dans ton dos et tu te retrouves en train de défendre l'étranglement arrière très durement. Donc, il pourrait, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il a plus de métier, mais il faut qu'il soit extrêmement méticuleux. À la moindre erreur, ça va mal se passer pour lui.
Et quand tu vois la gestion du cas Paulo Costa, moi, c'est le truc qui m'étonne. Peut-être que tu connais les coulisses de... Enfin, mais sur les réseaux sociaux, alors, enfin, tu vois, je suis pas du tout au fait du dossier, mais ça fait un peu... La gestion a l'air vraiment particulière. Le mec, enfin, on sait pas pourquoi il y a l'annulation. Finalement, il affronte Khamzat, il dit « je vais signer, je vais pas signer ». Est-ce que t'as déjà été confronté à des mecs comme ça? Et comment tu gères des cas comme ça aussi?
Tu peux juste... Moi, quand je suis confronté à des personnes qui me compliquent la vie sur les signatures et tout ce qui va avec, je les libère souvent. Je pense que Khamzat... Je pense que si ce combat ne se passe pas, parce que c'est possible qu'il ne se passe pas pour une histoire de bagarre, ils peuvent se croiser. J'ai eu Iliane Boafia, qui combat sur Arès, qui m'a dit que il allait, il m'a dit, est-ce que ça ne te dérange pas que j'aille faire le camp d'entraînement avec
Khamzat, ouais.
Khamzat Chimaev, puisque c'est son sparring. Khamzat a fait appel à lui et donc il a loué une maison à Abu Dhabi et ils vont y aller. Et il me dit, il y a une telle tension dans l'équipe que il pense que ça pourrait salement bagarrer. Moi, je pense que s'il y a cette annulation, l'UFC pourrait simplement coter Paulo Costa. Parce qu'il apporte beaucoup de problèmes. Il ne combat pas souvent.
Mais c'est ça.
Il n'apporte pas machin et il est très exigeant et complique la vie à tout le monde. Je le dis souvent dans la vie, ce qui manque, qui apporte des problèmes, c'est la connaissance et la valorisation de chacun. Je pense que sa valeur, il a été très haute. Quand en réalité, il n'est pas si haute que ça. Et je pense qu'au moins de faux pas, ils vont le couper.
Ouais, je pense aussi, parce que là, il y a eu quelques annulations en pagaille du côté de Paulo Costa. Et en plus, Fernand, tu as vu ton vœu exaucé, parce que tu penses qu'il va être champion d'ici 2024, c'est Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Ça va être la bonne?
Pas sûr. C'est dur.
Ouais.
Islam est dur. Hein. Islam est vraiment fort. Je suis content que Oliveira puisse avoir sa chance une énième fois et que. Mais je suis pas sûr. Il va falloir qu'il soit très très fort mentalement. Je te parle pas de l'aspect technique et tout ce que tu veux. Il va falloir qu'il soit très très fort. Il est un terrain hostile.
Et à part ça, il y a un truc qui me frappait avec Charles Oliveira, c'est qu'aujourd'hui, il est à 9 défaites, et je me souviens toutes les discussions qu'il y avait. Je crois que c'était quand il y avait Kamaru Usman ou qu'il allait affronter Masvidal, ou non, Masvidal contre Colby Covington, et il parlait justement du fait que Masvidal, lui, il avait 14 défaites à l'époque, quelque chose comme ça. Est-ce que, aujourd'hui, il y a eu quelques contre-exemples avec, par exemple, Jan Blachowicz, mais les gars qui ont déjà perdu 9 fois, est-ce que tu peux te dire, on peut toujours croire à un vrai gros run où t'as été trop exposé, il y a trop d'exemples de moments où quelqu'un a pris le dessus sur toi pour pouvoir durablement faire un turnaround.
Tout est encore possible, c'est juste que ça peut te salir, ça peut te blesser, ça peut te hanter. Toi, par exemple, pour Cyril qui n'a que 2 défaites, dans le coaching que je vais faire avec lui, je vais lui apporter. Je vais lui rappeler ce que ça pourrait lui faire. Tu pourrais arriver à l'UFC. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de coups qui sortent. Parce que tu es encore bloqué sur ce qui s'est passé. Tu pourrais avoir quelqu'un qui tient le coup. Et au lieu de penser ce qui se passe, tu es bloqué sur la soumission et tu ne trouves pas de solution pour après. Il faut juste en parler, se préparer, trouver les mots d'enseignement dessus pour pas que ça arrive. Mais on ne saura pas. On ne saura pas si Charles Oliveira, ça va s'arrêter là parce qu'il est sur 9 défaites, parce qu'il a au total 9 défaites, ou est-ce qu'il va renaître, remonter. Je sais juste qu'il y a des mecs qui sont sortis de l'UFC, comme Robbie Lawler, qui a été intronisé récemment Hall of Fame, qui est sorti, viré de l'UFC, ensuite il ré-signe à l'UFC et il devient champion de l'UFC. Il y a des gars comme le Mexicain, Moreno,
ouais.
Viré de l'UFC, il repasse sur LFA, il fait un combat, il rentre à l'UFC, il ré-signe, il devient champion. Donc ça veut dire que pour être viré à l'UFC, il faut un certain nombre de défaites quand même, et un certain nombre de... Et malgré ça, le gars, il est bas dans son mental, il trouve le mental de revenir, il gagne, il devient, et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour de sa retraite, malgré le nombre de décès qu'il a, Robbie Lawler, il a réussi à faire une très belle performance et un KO.
Ouais, non, c'est clair. Bah, et puis surtout qu'il y a un moment où tu te retrouves dans des conditions pour faire un run. Mais cependant, il y a aussi ce côté-là, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais c'est ça qui, moi, vraiment me fascine avec les gars comme ça, c'est Robbie Lawler, il y a eu le KO contre Tyrone Woodley, il a plus jamais réussi à atteindre ces sommets-là. Charles Oliveira, il y a la défaite contre Islam Makhachev, on se pose tous la question, est-ce qu'il va réussir à revenir? Mais on sent que t'es pas à la limite, mais tu sais, c'est assez fin. Tony Ferguson, il y a eu le combat contre Gaethje qui a...
C'est le début de la décadence. C'est le début de... Ouais. Il y a un moment donné, il y a un début de la décadence. Et c'est souvent fin, mais si tu observes l'histoire du MMA, tu sais reconnaître à quel moment la performance n'est plus comme l'autre performance. Mais le dernier combat qu'Olivier a fait, il était impressionnant. Donc c'est pour ça, il faut voir l'autre combat s'il est constant ou s'il rechute dans les abîmes. Faut observer ça et voir ce que ça donne.
Et pour toi, est-ce qu'il y a un indicateur ou plusieurs indicateurs pour te dire là c'est la fin? Parce que c'est vrai que Oliveira, tu n'as pas dit que c'était la fin. Moi, j'avais de gros doutes pour c'est peut-être game over
non,
pour lui.
Non, je ne pense pas. Avec ce qu'il a fait récemment, non, je pense que mentalement il est encore là.
Non, mais ou d'autres gars au global. C'est quand tu vois qu'il y a une défaite, est-ce que toi, tu arrives à te dire ce moment-là, c'est ce qui peut faire basculer? Parce que, enfin, en vrai, Ferguson, moi, je m'attendais pas du tout à ce que le mec ne gagne plus rien. Même Donald Cerrone, tu vois, il avait son gros run, il perd contre McGregor et...
Je ne sais pas. C'est juste la manière dont il gagne, la manière dont il se comporte en ce moment, la manière dont il parle, le fait de dire on va aller récupérer ce qui nous appartient. Il y a une certaine assurance, un certain mental, des choses qui n'arrivent pas beaucoup à ceux qui sont sur le point d'aller perdre. J'ai l'impression qu'il est encore là, un peu, pour quelque temps.
All right, et ben ce sera le mot de la fin. Enfin, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Le moment où, entre le gars au top et le gagné plus, même Kevin Lee, c'est des gars, tu regardes l'âge, tu regardes le physique, tout est là, mais il y a quelque chose qui s'éteint.
C'est très cool, finalement, la carrière d'un athlète. Mais... J'espère que c'est pas la fin pour lui et qu'ils vont nous offrir un très beau combat et que le meilleur gagne.
Ouais, ah non, ça peut être tellement une belle rivalité. Si tu t'imagines s'il arrive à faire tomber Islam. Oh là là. Enfin, moi, de toute façon, je suis team Oliveira, mais comme le premier combat, la raison veut que Islam Makhachev soit implacable.
Yes. Voilà. C'est exactement ça.
Parfait. Fernand, comme chaque semaine, merci beaucoup. La semaine prochaine, là, c'était surtout revue d'actualité. La semaine prochaine, on retrouvera un très gros sujet. On aura toute une semaine pour potasser ça. Donc voilà, c'est l'été, mais ça charbonne toujours ici. Merci beaucoup.
Merci les amis pour le soutien. N'oubliez pas, apportez aussi le soutien à la sueur. Like, commande, abonne-toi. Merci, à bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.